Alors, aujourd'hui, on s'est fait un double petit-déj bacon-banane.
Va te mettre au coin, 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 petit canard.
Encore une victoire de canard.
C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare,
regarde les trois petits canards comme ils sautent, sautent dans la mare.
Un canard.
Canard, le podcast qui parle d'art et qui vous embouche un coin.
Salut Gabriel.
Salut Vicky. Cette semaine, on vous fait enfin un petit point d'actu.
Oui.
Comme ce qu'on vous avait promis depuis le premier épisode. Parce qu'il s'est passé quelque chose que vous avez peut-être entreaperçu concernant un artiste italien qui s'appelle Maurizio Cattelan et une banane. En effet, Maurizio Cattelan a réalisé une œuvre qui s'appelle The Comedian, qui n'est rien moins qu'une banane collée avec du scotch d'électricien au mur. Et cette banane, qui avait été vendue par une galerie française, a d'ailleurs une acheteuse française pour 120 000 euros, comme quoi il faut rétablir l'ISF. Cette banane était exposée à la foire Art Basel Miami en Floride cette semaine, et un monsieur, un autre artiste également italien, est venu et a mangé la banane en disant que c'était une performance artistique. Ce qui les a plutôt fouet. Non, mais c'est rigolo. Soupire pas tout de suite, c'est rigolo. Même si ce soupir que tu viens de faire est un peu la réaction de beaucoup de gens, ce que je peux comprendre. Alors oui, est-ce que c'est normal qu'une banane se vende pour 120 000 euros? Absolument pas. Donc c'est pas la banane qui s'est vendue pour 120 000 euros, c'est le concept de l'œuvre. En fait, la banane, elle doit être changée tous les 2-3 jours. Il y a d'autres œuvres dans l'art contemporain qui sont un peu sur le même principe, où c'est pas l'objet en tant que tel, mais c'est plutôt l'idée qu'on ait scotché une banane au mur, ce qui peut tout autant choquer que le fait qu'on ait vendu une banane 120 000 euros. Mais Maurizio Cattelan, c'est un artiste assez intéressant, assez drôle en fait, qui met le burlesque au cœur de son œuvre, et la question surtout de qu'est-ce que doit être de l'art au cœur de son œuvre. Notamment, il a fait quelque chose d'autre, une autre œuvre qui s'appelle America, où c'est des toilettes en or massif, et c'était vraiment pour dénoncer l'accumulation des richesses du peuple américain par les 1% de sa population. Voilà,
des choses comme ça. Ouais, mais autant les toilettes, je comprends, autant la banane accrochée au mur...
Ah oui, mais il dit pas rien si après il y a des dames qui achètent ça à 120 000 balles.
C'est ça qui m'inquiète, moi.
C'est l'ISF, les riches, ils savent pas quoi faire de leur argent.
Du coup, pour revenir à notre revue d'exposition...
C'est ça, après les bananes, après du bacon.
Les bananes, le bacon, on est allé faire l'expo Francis Bacon en toutes lettres au Centre Pompidou.
Alors, Francis Bacon...
Ah oui, pitié, explique-nous.
C'est un peintre irlandais qui... fait des... Alors il est un peu inclassable dans son époque, dans sa période. Bon, il a peint jusque dans les années 90, je crois qu'il est mort en 92, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, parce que c'est les œuvres...
C'est ça, c'est les œuvres de ses 20 dernières années, de 71 à 92. Et c'est un peintre... Moi, je trouve ça pas inintéressant. Il est très nourri de peinture ancienne, de références à la peinture ancienne, à des peintres comme Rembrandt, comme Velázquez... Et c'est de la peinture, c'est pas abstrait, c'est pas figuratif non plus, c'est un peu entre les deux. Mais bon, c'est quand même plus figuratif qu'abstrait, on reconnaît ce qu'il est en train de peindre.
Oui, moi je dirais que c'est quand même plus figuratif. Et puis les titres des œuvres désignent...
Ce qu'on voit.
Enfin, désignent des choses, des vraies choses,
oui,
on va dire.
C'est ça.
C'est pas des titres abstraits.
Vous êtes pas perdu. Et c'est souvent des grandes peintures, des grandes toiles rassemblées souvent en série de trois panneaux, donc en triptyque. Donc c'est des choses qui sont assez impactantes. Enfin, j'ai trouvé
visuellement
impactantes. Et alors en plus après émotionnellement, bon ça c'est on va en parler. Enfin, moi j'en parlerai plus tard. C'est la sensibilité de chacun. Mais voilà. Et donc maintenant on peut peut-être parler de qu'est-ce que cette exposition avait de spécial.
Alors j'attaque hein, parce que du coup je je reste très mitigée. Le concept de l'expo, c'est qu'il n'y a pas de texte explicatif.
Oui.
Il y a les œuvres, il y a les cartels qui indiquent le titre de l'œuvre, la date et le lieu de conservation, mais c'est tout.
C'est ça.
La seule chose, le seul texte qu'il y a, en fait, c'est six boîtes, on va dire, dans l'expo, où on peut rentrer, et qui diffusent en boucle des extraits d'ouvrages qui ont pu influencer Francis Bacon. Donc voilà, donc on se retrouve face à des œuvres qui sont certes impactantes visuellement, comme l'a dit Gabriel. Moi j'ai adoré les couleurs. Il y a ce petit violet là qui est un peu partout, que j'aime beaucoup. Mais sincèrement, j'ai rien compris. Mais après, je suis pas sûre que l'expo, ce soit... Enfin, que le but de cette expo, ce soit de comprendre quelque
chose.
C'est
ça. Là, on touche à quelque chose, à une question assez intéressante, je trouve, et je dis pas ça parce que c'est moi qui la pose. Est-ce qu'une exposition doit forcément être didactique ? Est-ce qu'elle doit forcément nous apprendre des choses ? Ou est-ce que ça peut être simplement une expérience esthétique ? Et j'ai trouvé que cette exposition, en tout cas pour moi, ça a pas mal fonctionné. Ça a été une expérience esthétique. Pas de bout en bout. Ça a surtout fonctionné au début. Après, je me suis un peu lassée. Mais ça m'a marqué. Ça a vraiment fonctionné. Parce que ces tableaux, on les voit, c'est par section. On a quelques tableaux, 5, 6. Et ensuite, vous entrez justement dans ces petites pièces avec des textes qui vous ont lus. Ça peut être la poésie, ça peut être des extraits de dictionnaires, mais des dictionnaires quand même assez littéraires. Ça sera pas le Petit Robert. Il y a un exemple que je vais vous donner, je vais pas tout vous raconter, mais on a un extrait d'une pièce d'Eschyle. Et on écoute ça, en plus c'est lu par des gens assez connus, avec des voix plutôt agréables, comme Mathieu Almaric ou Hippolyte Girardot. Et alors déjà, j'ai découvert que Eschyle, c'était très beau, parce que je connaissais assez peu. Et ensuite, on sort, après avoir écouté de la poésie, ce qui est toujours plaisant, on sort dans la pièce, et là, on voit les tableaux de Bacon, qui sont associés à ce texte-là, et il y a des liens qui se tissent. Ou pas. Mais en tout cas, moi, il y a des liens qui se sont tissés.
Ou pas.
En tout cas, dans les premières sections. Et après, malheureusement, je trouvais que les dernières sections, c'était un peu mis au chausse-pied, c'était un peu des liens forcés, et ça m'a beaucoup moins remué que le début. En plus de ça, la peinture de Bacon... C'est une peinture vraiment organique. C'est des corps pas tout à fait finis, un peu comme si c'était des corps de chewing-gum, mais en même temps vraiment très très viscéraux. On voit souvent des choses qui évoquent les entrailles, les côtes, mais c'est jamais... C'est comme si on vous faisait voir des scènes obscènes, des scènes de cadavres, mais comme la peinture est floue et que les couleurs sont très douces, très belles, ça passe, en fait. C'est comme si vous voyez des scènes...
C'est jamais choquant.
Horribles. C'est ça, des scènes horribles, mais derrière une sorte de
papier calque violet.
Flou. C'est ça, de papier calque flou et avec une lumière toute douce. Donc ça a quelque chose d'assez fascinant, et ça a un impact, moi je trouve un impact psychologique assez intéressant, parce que c'est vraiment une peinture, alors à la fois très matérielle, parce que c'est vraiment des organes et des corps, mais en même temps on comprend tout à fait que c'est une peinture qui touche à la psyché, aux états d'âme. Et enfin voilà, en tout cas moi, sur moi, ça a fonctionné très fort. Mais je comprends que ça peut pas fonctionner sur tout le monde.
Bah disons que moi qui n'ai pas forcément un esprit très créatif, j'aime bien les choses concrètes quoi. C'était un peu trop perché pour moi. Et j'ai été un peu déboussolée par le fait que chaque extrait est lu par quelqu'un de différent et à des vitesses différentes.
Ah ouais.
Et avec un rythme de diction et une prononciation différente. Et les versions anglaises sont toutes lues par la même personne.
Oui, parce que les textes, vous les avez une fois en français, oui. Une fois en anglais à la suite, en voilà. Fait, quand vous les écoutez.
Et j'ai trouvé que la version anglaise, en fait, était plus agréable. Parce que du coup, de temps en temps, on restait plus longtemps dans les boîtes. Et j'ai trouvé que la version anglaise était plus agréable parce que c'était toujours la même personne. Et en fait, je trouve que sur la version française, ils ont voulu... on va dire, faire un jeu d'acteurs qui, je trouvais, était pas nécessaire. Parce que le but, c'était d'entendre le texte et qu'il soit lu de façon théâtrale, c'est normal. Mais je trouvais que de changer les narrateurs, ça déviait un peu le propos.
Ah oui, moi ça m'a bien plu. C'est vrai que je sais pas pourquoi, ça m'a peut-être
bah, disons
plus
que toi
touché,
t'étais,
plus t'étais, permettre, voilà. Permis de rentrer dans le texte.
Toi, t'étais plus emporté par l'ensemble, alors que moi, du coup, je focalisais plus sur les détails, peut-être. Après... moi, j'ai constaté un truc, ça m'a frappé, c'est qu'à la fin de l'exposition, il y a une vidéo sur, c'est une interview de Bacon sur son travail et tout ça. Et c'était très drôle parce que tout le monde était agglutiné là. Et dans l'expo, on n'était pas gênés, mais à la fin, tout le monde était devant cette vidéo. Et je me suis dit, comme quoi, les gens sont pas prêts à une expo purement esthétique. Ils ont besoin d'avoir du contenu. C'est à ça que ça m'a fait penser.
Ce qui aurait pu être... Alors en plus, moi j'ai été un peu déçue justement par cette fin-là. C'est que j'aurais bien aimé voir la vidéo en entier, mais comme il y avait tellement de gens, et qu'en plus elle est en anglais sous-titrée, donc les têtes des gens cachées sous-titres, et elle est vraiment coincée à la fin. C'est pas une salle exprès. On peut pas juste se mettre dans un coin. On est forcément derrière une mare de gens. Et je vois cette vidéo qui peut-être justement m'aurait apporté des clés en plus, des clés de compréhension en écoutant cette interview de Bacon parler de son travail. Peut-être que des choses se seraient encore en plus mises en place, en plus de juste avec les textes poétiques ou théâtraux qu'on vient d'entendre. Et bah du coup, j'ai pas pu, parce que j'ai pas eu la patience d'attendre 10 minutes debout que tout se débouche. Et finalement, et voilà, ça c'est une question juste de placement de la vidéo. C'est très dommage, ils auraient dû soit mettre plusieurs petits écrans ou le mettre ailleurs autrement, mais qu'on n'ait pas accès à cette vidéo qui est censée donner un peu de lecture, c'est quand même un peu un manquement.
Ouais, mais du coup, tu vois, ça prouve qu'on a besoin, de ces informations.
Après, moi j'ai quand même bien aimé l'exposition sans les avoir.
Ouais.
Mais il faut accepter par contre que Bob Bacon, vous ne saurez pas grand chose de plus sur son travail si vous ne voyez pas la vidéo en sortant qu'en entrant, si vous ne connaissez pas avant. Ça. Pour autant, j'ai quand même passé un bon moment.
Bon, du coup, Gabriel, est-ce que t'as eu une œuvre préférée ?
Oui, et je vais en parler, parce que comme toi tu boudes et que t'as dit que t'en aurais pas, je parle pour deux. Il y a une œuvre qui m'a beaucoup beaucoup plu, c'était un triptyque qui s'appelait « Seconde version d'un triptyque de 1944 », super, qui date de 88 et qui est conservé à la Tate Britain. Et alors il était malheureusement pas dans la partie liée au texte d'Eschyle, un extrait des Euménides, extrait dans lequel Eschyle décrit des harpies, vraiment comme des sortes de créatures de mort, enfin ça m'a vraiment bien plu. Et justement ce triptyque, on a des espèces de créatures, une sorte de créature manchote qui semble s'auto-dévorer elle-même et qui ont à la fois une sorte de profil assez féminin, vraiment comme un sphinx ou des harpies, enfin une sur chacun de ses panneaux, sur un fond rouge opéra absolument magnifique. Voilà, donc ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu.
Alors, les infos pratiques. Donc l'exposition dure jusqu'au 20 janvier 2020.
Très bien.
Wouh ! Donc c'est tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 21h, avec une nocturne le jeudi, jusqu'à 23h. Donc comme d'habitude, les caisses ferment une heure avant.
Oui, à noter que le centre Pompidou en ce moment est en travaux. Enfin voilà, vous verrez.
Oh là là, alors c'est le parcours du combattant. Il faut faire 4 fois le tour de la place sur un pied.
Mais ça reste ouvert.
Mais c'est assez bien indiqué.
Oui,
hein,
c'est fléché et le musée est ouvert.
Il faut y aller. C'est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les tarifs, c'est 14€, réduit à 11€. Et c'est gratuit pour les moins de 18 ans.
Très bien.
Voilà. Alors, on n'y va pas.
Si, on y va. Ouvrez vos chakras, allez-y. Allez-y si vous passez le bac de philo cette année. Allez-y si vous aimez un peu être surpris, aussi voir des choses qui changent un petit peu. N'y allez pas en étant ronchon.
Tu veux dire que j'étais ronchon à ce moment-là ?
Non, pas du tout. En plus, c'est pas vrai. Non, mais enfin, allez-y en sachant que ça sera pas quelque chose qui vous prendra par la main. Mais que si ça fonctionne, ça peut vous faire ressentir des trucs assez cool. Pas forcément joyeux, mais assez cool.
Pas joyeux, non.
Non.
Bon, bah voilà, c'est fini pour nous.
C'est ça.
Bah, retrouvez-nous
la semaine prochaine.
En attendant, on est sur Instagram, Twitter, Canard, le podcast Canard avec un T.
Tout attaché.
On est sur
iTunes, Spotify, SoundCloud et toutes les bonnes applications de podcast. Et voilà, on a tout dit.
Et on a tout dit.
Et ben, à bientôt Vicky.
À bientôt Gabriel.